Les géants du numérique comme Google, Facebook et Apple et les autres exercent aujourd'hui une influence considérable sur la diffusion des contenus culturels à travers leurs plateformes et leurs algorithmes. Mais ces algorithmes opaques et les critères de sélection restent quand même un secret industriel pour chacun d'eux, soulevant des interrogations sur les potentiels biais et l'impact sur la diversité culturelle promue. Les 18 et 19 avril prochains, ça c'est jeudi et vendredi, il y a des gens qui vont se rencontrer à l'Université de Montréal pour se pencher sur la situation dans le cadre d'un symposium qui s'intitule « Souveraineté culturelle et géants numériques, regards croisés, Canada, France, Belgique » et Québec, organisé par le Centre de recherche en droit public et l'Université de Montréal. Pour nous parler de cette rencontre, on va retrouver Alain Saunier, qui est professeur honoraire au département de communication de l'Université de Montréal et co-organisateur du symposium. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alain, quel est le but de ce symposium? Parce que le sujet est large, là.
Ouais, ben le sujet est large et puis il évolue de semaine en semaine, de jour en jour, je dirais. Mais en même temps, il s'agit d'une idée folle que moi j'ai eue déjà il y a quelques mois. C'était de voir comment est-ce qu'on pourrait à la fois approfondir notre réflexion sur la souveraineté culturelle, comment établir notre véritable souveraineté culturelle quand on sait fort bien que les géants numériques nous imposent leurs choix sur le plan culturel et tout ça. Et puis, l'autre aspect de cette idée folle, c'était de faire un genre de regard croisé pour connaître un peu comme les meilleures façons
meilleures
de
pratiques.
travailler, les meilleures pratiques, comme on dit en anglais, là, mais c'est un anglicisme, mais du côté de la Belgique, de la France, Canada, Québec. Alors donc, ce regard croisé, ces regards croisés, on va les tenir les 18 et 19 avril prochain, avec aussi des invités de prestige, d'une part des ministres, et pas les moindres. On parle de Pascal Saint-Onge du ministère du patrimoine canadien, Mathieu Lacombe de la culture et des communications du Québec, Franck Riester, qui est le ministre de la francophonie française, et puis il y a un représentant de la ministre de la culture de la Wallonie-Bruxelles, Monsieur Blanchard. Alors donc, il y a un volet politique où chacun va pouvoir établir un peu de quelle manière ils entrevoient les choses. Et les choses étant la souveraineté culturelle, comment on peut véritablement l'établir, l'afficher, l'affirmer sur les plateformes que nous ne contrôlons pas. Et puis, il y aura des experts qui vont venir aussi pour commenter un peu l'ensemble de ces thématiques et sous-thèmes un peu que ça peut comporter.
Il y a 2 ans, plus que 2 ans, c'était en février 2022, si ma mémoire est bonne, tu as publié « Les barbares numériques ». Ce symposium-là, j'allais dire, est-ce que c'est la suite de ton livre?
Un peu, oui. Et je vais même me servir de ce symposium-là pour écrire un autre livre. Effectivement, j'ai fait beaucoup de ce que j'appelle d'un service après-vente depuis la publication de mon essai, qui a bien marché par ailleurs et qui a eu un véritable impact.
Et encore aujourd'hui.
Oui, j'écoutais une entrevue tout récemment, puis quelqu'un utilisait l'expression barbare numérique, comme le dit Alain Saunier. Alors, bon, je pense que ça a fait le tour et j'en suis bien content. J'en suis ravi. Mais oui, effectivement, il y a une suite logique dans tout ça. Bien que si j'avais aujourd'hui à réfléchir un peu, c'est quoi la souveraineté la plus menacée? La souveraineté culturelle en est une, bien entendu. Mais je pense que c'est aussi la souveraineté démocratique. Parce que ce qui se passe de plus en plus à l'heure actuelle, c'est que les États se trouvent à être un peu défiés par les géants numériques qui ne veulent pas reconnaître l'autorité des États, qui ne veulent pas reconnaître non plus les organisations, les organismes de réglementation. On pense à Meta, comment ils ont décidé de claquer la porte lorsqu'il y a eu des négociations pour le projet de loi C-18 concernant les contenus journalistiques. Donc, c'est certain que aujourd'hui, on parle de souveraineté culturelle dans ce symposium de la semaine prochaine, mais il faut de plus en plus aussi regarder la notion de souveraineté démocratique, souveraineté numérique, si on veut l'appeler ainsi. Ça a un impact, cette souveraineté-là des États qui est défiée par les géants numériques à tous les égards. Et puis, ça a un impact aussi sur tout ce qui s'appelle la désinformation, la mésinformation, et ça fait en sorte que notre démocratie, elle est aussi attaquée et vraiment en sérieuse difficulté C'est ce que je considère actuellement. Alors, vous aurez mon autre livre qui sera publié en septembre ou octobre prochain, mais en tout cas, certainement pour le Salon du livre à l'automne prochain à Montréal.
T'as fait allusion, puis je vais revenir sur le sujet parce que j'ai tellement pensé à toi à ce moment-là. Est-ce que toutes les péripéties entourant la loi C-18, les négociations concernant cette loi-là sur les nouvelles en ligne, ça t'a sûrement pas rassuré de voir que d'un côté, il y avait un Google qui décidait de s'accommoder d'un projet de loi en négociant, selon ses termes, sa participation, puis de l'autre côté, il y avait un joueur comme Meta, puis tu le disais, qui lui a tout simplement claqué la porte et est parti, puis ça finissait là.
Oui, en fait, Meta, moi, je n'étais pas surpris parce que si on se rappelle, 2 ans auparavant, ils avaient fait une entente avec l'Australie. Et dans ce cas-là, j'ai comme l'impression qu'ils le regrettaient. Alors, il n'était pas question d'ouvrir à nouveau cette boîte de Pandore avec le gouvernement canadien. Et ils ont donc décidé de claquer la porte et puis de faire, on peut appeler ça un pied de nez, d'une certaine manière, au gouvernement canadien en disant, nous autres, on veut rien savoir de votre autorité comme État de vouloir nous encadrer, nous réguler, comme on dit.
Mais ça laisse un pays comme le Canada dans quelle position dans ce contexte-là?
Ben, ça l'a laissé dans la même position qu'à peu près tous les autres pays vont être, parce que Facebook a aussi, et Meta plutôt, a aussi annoncé du même coup qu'il allait se retirer à peu près partout de la même manière que ils ont décidé de le faire pour le Canada. Dans le cas de Google, moi je considère qu'il y a quand même une victoire importante, il y a un précédent qui est là, parce que Google, ce qui les agaçait en fait dans le projet de loi C-18, c'est d'être obligé de négocier avec chacun des médias. Alors, eux autres, ils ont dit, nous autres, on veut avoir un genre de package global, et puis ça sera à vous autres de faire le partage de ce montant-là qu'on va verser. Donc, ils ont décidé de verser un montant qui était peut-être pas à la hauteur des attentes de tout le monde, mais au moins, il y a un précédent qui est là, puis c'est la première fois dans les faits que Google reconnaît qu'ils ont cette responsabilité à l'égard des médias aussi lorsque on les utilise dans leur répertoire ou dans Google Search et tout ça là.
Alain, je regardais, ben le titre le dit, mais quand tu présentais les participants, on le voyait bien. C'est sciemment que tu as fait des invitations du côté de la francophonie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire de la façon que eux abordent le problème?
Ben, dans un premier temps, il faut peut-être parler aussi de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a vraiment fait beaucoup, beaucoup de kilométrage, si on veut, notamment en encadrant davantage Google, en encadrant aussi Apple. Ils sont en bataille actuellement avec Elon Musk et puis X parce qu'il ne veut pas respecter les législations qui ont été adoptées par l'Union européenne à l'égard de la concurrence aussi déloyale qui est faite à d'autres plateformes. La France sont beaucoup plus avancés que nous le sommes, notamment sur l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, déjà la semaine passée, ils ont déposé un projet qui est très bien à mon point de vue et dont on devrait s'inspirer. Alors, moi, je pense que la francophonie, il y a aussi quelque chose qui est important pour nous, c'est que il y a des outils, il y a des plateformes qu'on pourrait développer à l'intérieur de cet ensemble qui s'appelle la francophonie. Là, ça inclut évidemment l'ensemble des pays africains qui continuent encore à utiliser abondamment le français comme langue courante.
J'entends dans ta tête que tu vois l'Organisation internationale de la francophonie intervenir dans le dossier.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un représentant de l'OIF qui sera là lors de notre rencontre. Il y a aussi tout ce qui se fait du côté de l'UNESCO. J'en parlais dans mon livre, je parlais de la Convention de 2005 qui utilisait cette expression de la diversité des expressions culturelles. Le problème, c'est qu'en 2005, on avait oublié peut-être une dimension qui était la dimension linguistique. Alors, tu peux bien avoir une diversité d'expressions culturelles, mais si elles sont toutes en anglais, on n'est pas dans la grande diversité linguistique. Et c'est ce qui s'est produit beaucoup dans plusieurs pays, c'est qu'on a fait des productions. Oui, la Norvège, oui, les pays scandinaves, etc. Mais quand on décide de faire des productions en anglais pour avoir un certain rayonnement, ça ne permet pas de garantir un espace territorial, si on veut, à la dimension linguistique à l'intérieur de l'univers numérique. Alors, l'univers numérique, il est contrôlé par les Anglo-Saxons, il est contrôlé, je pense que c'est 63% des sites, là, je ne parle pas de tout ce qui se fait sur le web, mais des sites Internet qui sont en anglais. Et quand en ce qui concerne la francophonie, c'est 2 à 3 % à peu près. Alors, on n'est pas de taille, à moins qu'on décide de se regrouper, puis à moins qu'on décide de développer peut-être des alternatives à celles qui sont les alternatives, plutôt les propositions des Américains de la Silicon Valley. Parce qu'on parle toujours de plateformes américaines ici.
Je lisais dans une entrevue que tu as accordée à une publication, je pense que c'est celle de l'Université de Montréal, où tu disais que peut-être qu'une piste à envisager, c'était l'introduction de biais dans les algorithmes, dans les intelligences artificielles, pour essayer d'arriver à réaxer les recherches pour permettre une plus grande découvrabilité puis un plus grand accès au contenu qui est le nôtre sur ces plateformes-là.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a déjà des discussions qui existent en Europe. Je parlais de l'Union européenne, je parlais de la France, où, par exemple, tu es obligé dans le référencement d'avoir un certain nombre de choix qui soient territoriaux d'une certaine manière. Parce que sinon, tu vas être enseveli complètement derrière en dessous de tous les choix qui seront proposés et qui, eux, sont des choix qui proviennent d'un peu partout ou qui proviennent surtout d'une décision d'un algorithme américain. Donc, il nous faut avoir un accès à ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de discussions qui ont lieu quant à l'égard de la transparence des algorithmes. Évidemment, c'est un secret industriel, les algorithmes, et puis Google ne veut pas donner accès à ça. Mais il n'y a rien qui empêcherait d'avoir une commission internationale relevant des Nations Unies, relevant d'un organisme supranational, où il y aurait des experts qui seraient habilités à pouvoir avoir un accès confidentiel. Donc, ils devraient garder la confidentialité de tout ça, mais tout simplement pour essayer de comprendre comment fonctionnent leurs algorithmes, pour là ensuite pouvoir introduire une certaine façon de prioriser davantage, prioriser les choix du territoire là où les choses se passent.
Et ça, c'est en espérant qu'eux-mêmes savent comment aujourd'hui leur algorithme fonctionne. Ça, c'est une autre question.
Oui, ça c'est un autre débat, mais moi j'ai parfois l'impression que les géants numériques et puis leurs propriétaires sont conscients qu'ils ont créé eux-mêmes un monstre qu'ils ne contrôlent pas. Et puis c'est là où je pense qu'il est important d'avoir une certaine forme d'autorité, autorité réglementaire, mais autorité des États, puis l'État de droit aussi. C'est majeur parce que la seule façon d'avoir des législations, c'est de passer par les États. Et ça veut dire qu'il faut rétablir l'autorité de l'État et l'État de droit. Et c'est la raison pour laquelle moi je pousse, et puis le colloque, le symposium des 2 jours va le faire, c'est de pousser justement pour qu'on rétablisse cette autorité des États de légiférer pour protéger la culture, protéger nos institutions, protéger aussi la démocratie, protéger aussi l'information et la culture et nos médias. Si on ne fait pas ça, on va se retrouver vraiment dans ce que on peut appeler le chaos. Il y a un auteur qui a publié il y a 3 ans les ingénieurs du chaos d'Ehame Poli. Et puis c'est pour moi il y a un danger qu'on s'en aille dans cette direction-là si on n'a pas des États assez forts pour pouvoir réguler et encadrer ces superpuissances américaines. Tu sais, on a hurlé en disant c'était écœurant, hein, c'est grave, qu'est-ce qui se passe avec les Chinois et la propriété de TikTok, etc., qui relève de la Chine, et puis ils vont avoir accès à nos données, et ils vont avoir accès à tout ce que nous sommes, même nos données gouvernementales, etc. Moi, j'ai juste envie de dire, attention, c'est parce que nos données, on les a déjà fournies et données à un État où il y a des géants qui sont la Silicon Valley américain. Alors, peut-être qu'on devrait aussi commencer à avoir un petit peu, se garder une petite réserve à cet égard-là, puis se dire que nous sommes déjà menacés que nos données appartiennent à une puissance étrangère. Et ça, peut-être que ça veut dire commencer à réfléchir à comment on peut s'affranchir de la superpuissance que constituent les géants numériques, là.
Alain, en terminant, qu'est-ce que tu souhaites qui ressorte de cette rencontre?
Ben moi, j'insistais beaucoup sur la notion de regard croisé. Il y a des pratiques qui existent peut-être du côté des autres États. On aura d'ailleurs, il y a une dame, Madame Ben Samoun, qui elle travaille directement pour le gouvernement français, notamment pour assurer que l'intelligence artificielle soit encadrée et ne soit pas la propriété exclusive des géants numériques. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de Sam Altman et puis de son chat GPT, mais Sam Altman, maintenant, a fait une entente avec Microsoft. Et là, ce que ça signifie, c'est que les mêmes géants numériques, ceux qu'on appelait le GAFAM autrefois, ce sont eux qui sont en train de s'approprier aussi de l'intelligence artificielle. Alors, des gens comme Mme Alexandra Ben Samoun vont venir nous expliquer comment le gouvernement français est en train d'essayer de faire des choses pour aller dans une direction où on pourra réguler davantage ces géants numériques-là. Peut-être que les Belges ont aussi des propositions à nous faire. Il y a peut-être des intellectuels, des universitaires, des intellectuels, je pense à Edouard Plenel de Mediapart qui sera présent aussi à cette occasion-là et qui a sans doute une réflexion sur comment justement contrer cette puissance que les géants numériques américains peuvent avoir à l'égard de la population et à l'égard aussi des États là où ils sont en train. Ce sont des géants qui sont. Eux autres, ils considèrent qu'il n'y a pas de frontières. Les ondes, le nuage, le cloud, là, ça n'arrête pas un poste de frontières. Et de ce point de vue-là, ils considèrent qu'ils ont entièrement le droit de faire n'importe quoi. Donc, il faut intervenir.
Alors, je rappelle que le symposium Souveraineté culturelle et géants numériques, regards croisés Canada, France, Belgique, Québec, c'est jeudi et vendredi prochain, les 18 et 19 avril, au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal.
Et si tu permets, Bruno, juste ajouter que ça va être aussi télédiffusé. Alors, CPAC va capter les 2 journées complètement, et puis ça va être disponible sur le site de CPAC.ca en rattrapage, en soirée, le soir du jeudi et le soir du vendredi soir.
Et donc, ça veut dire que même les gens qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, avec un peu de chance, pourront suivre ces discussions-là.
Exactement.
Alain Saulnier, professeur honoraire au département de communication de l'Université de Montréal et co-organisateur du symposium. Ben Alain, bon symposium et merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions.
Merci Bruno.